RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
Ensemble jusqu'à 21h, l'Intégral Tour, le Tour de France, on en parle bien sûr en longueur avec Cyril Guimard, 18h20, comme ça tous les soirs pendant les 3 semaines du Tour de France. On vous accompagne sur la route de vos vacances, les experts F1 pour revenir sur la victoire de Lewis Hamilton du côté de Silverstone, et puis l'homme le plus rapide d'Europe qui sera avec nous sur RMC, Jimmy Vico. Il sera là 18h40 après son 100 mètres record hier au Stade de France. Mais d'abord, le journal des sports, comme tous les soirs avec Guillaume Lagnel. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Martial, bonsoir à tous.
Et on revient sur cette deuxième étape du Tour de France, étape très animée Guillaume.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, étape de 166 km disputée entre Utrecht et Zélande aux Pays-Bas. À Zélande, nous rejoignons Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Salut Guillaume.
La victoire donc pour André Greipel, mais ce que l'on retient, c'est qu'Alberto Contador et Christopher Froome sont les grands gagnants de cette étape.
Oui, après avoir été quasiment les grands battus de la première étape, le contre la montre d'hier, Chris Froome et Alberto Contador, qui n'avaient pas vraiment impressionné les foules. Eh bien aujourd'hui, les deux anciens vainqueurs ont réussi à prendre le bon wagon et à ne pas se faire piéger dans la bordure, intervenue à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée sur les bords de la mer du Nord. Froome et Contador qui ont ensuite fait rouler leurs coéquipiers pour tenter de creuser l'écart sur les autres favoris piégés à l'arrière, et parmi eux évidemment le vainqueur sortant du Tour de France, Nibali, ou encore le Colombien Quintana. Également parmi les battus du jour, nos Français dans les grandes largeurs, Thibaut Pinot qui avait impressionné hier mais qui aujourd'hui se fait piéger, Jean-Christophe Perrault également, ou encore Bardet. Bref, des Français qui n'ont pas été à la fête aujourd'hui, à la différence donc de Froome et de Contador qui comptent désormais plus d'une minute d'avance sur les autres favoris. Et puis à noter également le beau maillot jaune endossé aujourd'hui par Fabian Cancellara, le superbe rouleur qui s'est mué en sprinter aujourd'hui pour prendre la troisième place, prendre quelques petites secondes de bonification qui lui permettent aujourd'hui d'être maillot jaune.
Merci Christophe, on va écouter justement l'un des grands perdants de l'étape, Thibaut Pinot, au micro de Pierre-Yves Leroux.
Bah, pas de panique, non, mais voilà, on sait que ça joue à pas grand chose. Un rond-point pris sur la droite, il fallait passer sur la gauche, et voilà, ça s'est joué à deux mecs près. C'est comme ça, il faut être classé un peu mieux, et voilà. Je pense qu'à la télé, c'était une belle étape à regarder, mais c'est sûr que demain, voilà, ça peut recommencer. Après, on est encore pas au pavé, donc tous les jours, il faut avoir un rebondissement, et aujourd'hui, il y en a eu un, tiens.
Un Français donc en difficulté, un Martial, Thibaut Pinot. Il y en a un autre qui n'a pas caché son bonheur, c'est Tony Galopin, coéquipier du vainqueur du jour, André Greipel. On l'écoute, il était également tout à l'heure au micro de Pierre-Yves Leroux.
Ah, c'est magique, oh, c'est incroyable. On était tellement motivés pour cette étape, on a vraiment été la chercher. C'est nous qui avons fait la bordure. Et voilà, on a joué à la perfection la victoire d'étape. Ensuite, on a laissé les coureurs du général faire le travail. Et voilà, on a fait, on a gagné cette étape. C'est fantastique, c'est fait. Ouais, mais bon, on savait que ça allait être une grande journée. Il y a vraiment eu du sport, mais bon, voilà, on aime ça chez Lotto. C'est Lotto Soudal, donc voilà, c'est une bonne chose.
Voilà, la joie de Tony Galopin. Et on en reparle avec Cyril Guimard dans 15 minutes pour revenir sur cette incroyable deuxième étape du Tour de France. La F1, lui, il n'a pas tremblé sur ses terres, Lewis Hamilton.
Ça change pas beaucoup. Nouvelle victoire du Britannique sur le circuit de Silverstone. Le double champion du monde s'impose devant Nico Rosberg et Sébastien Vettel. On rejoint sur place Louis Arlot. Salut Louis.
Bonsoir à tous.
De spectacle, il a été question cet après-midi. Bah, à la fin, comme souvent, c'est le champion du monde en titre qui a eu le dernier mot.
Ouais, mais un grand prix de fou, Guillaume. Dès le départ, où le pilote Williams, Felipe Massa, trouve une brèche et se faufile funambule entre les deux Mercedes pour virer en tête. Son coéquipier Bottas remonte également. La lutte à 4 est alors engagée. Hamilton et Rosberg ont raté leur premier tour et pour la première fois de la saison, ils semblent vraiment en difficulté. Mais leur vitesse de pointe, la puissance de leur moteur et leur talent aussi les maintiennent dans la roue des Williams. Hamilton choisit le bon moment pour passer au stand, il ressort en tête et soulève déjà les acclamations des 140 000 spectateurs. Mais il était écrit que cette course serait folle jusqu'au bout. Le ciel devient noir, la pluie menace à 15 tours de l'arrivée et chamboule les stratégies. Juste quand Rosberg revient sur son équipier britannique, Hamilton décide de changer le pneu pour s'adapter aux averses. Choix payant, timing parfait, il conserve puis conforte son avance. Rosberg ne le reverra plus. Un grand prix spectaculaire donc, clairement le plus beau depuis le début de saison, qui aura vu par ailleurs Fernando Alonso, c'est un événement, inscrire son premier point et 8 pilotes abandonnés, dont malheureusement le Français Romain Grosjean.
Merci Louis, on va l'écouter justement. Romain Grosjean, forcément frustré après sa course à Silverstone.
C'est vrai que c'était la course à la maison de l'équipe, donc on espérait vraiment essayer de faire quelque chose de bien. On a vu que la course était un petit peu folle avec la météo anglaise qui était typique comme on l'aime. Maintenant, c'est la course automobile. Il y a des fois où ça se passe pas comme on veut. Maintenant, on reviendra plus fort en Hongrie. Ce que j'aime, c'est conduire la voiture et me faire plaisir au volant. Donc, plus je fais de tours, plus je suis heureux. Et c'est vrai que quand on abandonne au premier tour, c'est le sentiment de se dire qu'on aurait voulu, en découdre, on aurait voulu se battre, s'amuser. Parce que quand ça part à 14h le dimanche, je suis comme un gamin, j'aime ça.
Et ce Grand Prix de Grande-Bretagne, on en reparle dans les experts, évidemment, à 18h30 sur notre antenne.
Le patron, Martial, donc en F1, tu le sais, c'est Lewis Hamilton. En rallye, c'est un Français, Cocorico, c'est Sébastien Ogier. À la fête au rallye de Pologne, le Français s'impose devant Andreas Mikkelsen et Ott Tanak. 5e victoire cette saison pour Ogier, c'est comme Hamilton d'ailleurs. C'est la 29e en carrière pour le Français. Alors comment expliquer cette domination sans partage? Écoutez la réponse du principal intéressé au micro d'Éric Briquet.
C'est difficile à expliquer, même si je savais réellement les raisons, peut-être que je les donnerais pas exactement. Mais je pense que c'est avant tout un cumul de plein de choses, d'expériences depuis des années qu'on engendre et de team autour de nous. J'ai tous les éléments aujourd'hui autour de moi pour faire de belles choses et c'est vrai que la confiance est au maximum en ce moment. Je me sens super bien dans la polo, donc pourvu que ça dure.
Et pourvu que ça dure, le pilote français qui prend ses distances au classement avec désormais 78 points d'avance sur le Norvégien Andreas Mikkelsen.
Le troisième titre de champion du monde quasiment dans la poche.
Ah, ça c'est clair.
Le golf, l'Open de France sur le golf national de Guyancourt.
Oui, on va retrouver Damien Gossozio sur place. Salut Damien.
Salut messieurs.
Malheureusement, le français Victor Dubuisson ne soulèvera pas le trophée ce dimanche.
Et non, il ne sera pas le successeur de Thomas Levé, dernier vainqueur français ici en 2011. Dubuisson ne joue pas le golf de sa vie aujourd'hui, loin de là. Deux bogeys, un triple bogey. Il attaque actuellement son dernier trou et c'est une nouvelle fois un drive qu'il envoie très très loin du parcours dans le rough. Il ne devrait pas rejoindre la tête. Pour l'instant, carte de plus 2, un total de moins 4 à 8 coups du leader, l'Autrichien Bernd Wiesberger, à qui il reste 2 trous pour boucler cette Open. Il devrait, sauf catastrophe, s'imposer ici au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Voilà, on va
merci
parler.
Damien.
Merci.
Damien. 18h10 sur RMC, on passe au foot avec les dernières infos mercato.
RMC, le mercato show. Le mercato show.
Et c'est avec Benjamin Gless. Salut Benjamin.
Et salut Guillaume.
Et à la veille de sa reprise, le PSG est en passe d'officialiser la venue de sa première recrue.
Et le gardien allemand de Francfort, Kevin Trapp, 24 ans, devrait passer demain la visite médicale avant de signer avec Paris un contrat de 5 ans pour 8 millions d'euros. Autre piste parisienne, le latéral gauche du FC Séville, Benoît Tremoulinas, s'est pressenti pour remplacer Lucadine, poussé vers la ressortie. Des discussions ont débuté avec l'agent de l'international français. On parle d'une valeur de 10 millions d'euros. Mais le club espagnol aurait signifié que son joueur sous contrat jusqu'en 2017 n'était pas à vendre. De son côté, Johan Cabaye, auteur d'une saison décevante, devrait se relancer en Angleterre. Crystal Palace aurait proposé une offre de 14 millions d'euros et les deux clubs seraient proches d'un accord. Mounir Obadi, encore lié pour une saison à Monaco, est lui pressenti à Lille. Prêté au LS Vérone la saison passée, le milieu marocain devrait signer au LOSC dès la saison prochaine. Par contre, le transfert quasiment finalisé du défenseur ivoirien Wilfried Canon à Lille pourrait finalement être annulé. La visite médicale a révélé des soucis au genou et au cœur. Une contre-expertise aura lieu la semaine prochaine. Et puis enfin, dernière information à Nantes, un accord aurait été enfin trouvé avec le Genoa pour le latéral droit Issa Sissoko. On parle d'un contrat de 3 ans pour 500 000 euros. Le Canari devrait se rendre en Italie la semaine prochaine pour signer son contrat.
Merci Benjamin. Et puis toujours en football, on vous rappelle que le Chili a remporté la Copa América. C'était cette nuit à l'issue d'une séance de tirs au but contre l'Argentine. Ce soir, finale de la Coupe du Monde féminine entre les États-Unis et le Japon.
La natation avec l'Open de France à Vichy.
Et l'on retrouve au bord des bassins Julien Richard, l'envoyé spécial d'RMC. Salut Julien.
Bonsoir à tous.
Et après sa troisième place en finale du 50 mètres papillon, Florent Manodou, il va tenter de se racheter sur 50 mètres nage libre dans un duel attendu avec le Brésilien Silo.
Oui, les deux derniers champions olympiques de la distance, tout simplement. Manodou, c'était en 2012, Silo, c'était en 2008. Silo, qui est triple champion du monde en titre de 150 mètres. Manodou, meilleur performeur mondial de l'année. Silo, recordman du monde. Bref, c'est de là domine tout simplement là les simples. Hier, César Cielo a devancé d'un centième Florent Manodou sur le 50 mètres papillon, mais c'est aujourd'hui que le Marseillais veut marquer les esprits. Florent Manodou.
Généralement, il gagne le pape et je gagne le crawl. Donc on verra comment ça se passe. Hein. Les histoires se répètent, mais peut-être qu'elles vont changer. Le 50 pape est un peu moins important pour moi comme pour lui, je pense, à un an des Jeux. On veut tous les deux performer sur 50. 50 crawls. J'ai été peut-être un peu plus constant que lui pour l'instant. Après, le but, c'est d'être bon le jour J. Donc, on verra dimanche comment ça se passe. Et on verra surtout le quoi. C'est le 8 août, je crois, la finale du 50 libre, le samedi. On verra comment ça se passe.
Et puis on a aussi
son agenda, Florent Manodou. C'est effectivement le samedi 8 août au Mondiaux de Kazan en Russie. Et c'est un duel que l'on aura de toute façon jusqu'au jeu l'an prochain chez le Brésilien à Rio. En tout cas, sur ces terres, messieurs, Florent Manodou est invaincu face à Cielo sur les deux dernières éditions de cet Open de France.
Et puis on te retrouve tout à l'heure, hein, Julien, pour le 50 mètres d'eau avec un duel entre Français Camille Lacour et Jérémy Stravius. À tout à l'heure. C'était journée off aujourd'hui à Wimbledon.
RMC Wimbledon 2015.
Oui, c'est une tradition, tu le sais, Martial. On joue pas à Wimbledon le dimanche, c'est le middle
tout le lundi, en
fait. Day. Exactement. Retour des matchs demain, donc avec les huitièmes de finale. Hier, très tard dans la soirée, on vous rappelle que Gilles Simon s'est qualifié au bout de la nuit aux dépens de son pote Gaël Monfils en 5-7. Le Français jouera en huitièmes de finale Thomas Berdych, finaliste du tournoi en 2010. Et Gilles Simon ne s'attend pas à une partie de plaisir. Il est au micro d'Eric Salio.
Passe par Thomas Berdych en huitième de finale. Il m'a l'air bien dans son tennis. Il m'a l'air très solide sur ce qu'il fait depuis le début du tournoi. Alors je vais essayer de faire un gros match pour lui poser plein de problèmes. Shanghai, c'est pas si loin et je l'ai encore battu. C'est juste que le dernier match a été, on va dire, inhabituel. On s'était joué, à chaque fois ça avait été accroché et sur le dernier match, j'ai perdu 6-2-6-1 en une heure et donc il va falloir essayer d'oublier ça et retourner avec les bonnes intentions qui nous laissent pas respirer. On sait à quoi s'attendre, ça c'est agréable, et on sait à quoi s'attendre, ça c'est désagréable.
Le match ce sera demain, tout comme Kyrgios contre Gasquet. Dernière info de tennis, et très rapidement, Conchita Martinez pressentie pour être à la tête de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis.
En espérant qu'elle puisse sélectionner des joueurs, puisque la capitaine précédente avait du mal à faire venir du monde. On va pas bouder notre plaisir, on va revenir sur le meeting Areva de Paris hier soir.
Meeting marqué par la contre-performance de Renaud Lavilloni, seulement cinquième du concours du saut à la perche, marqué également par la course exceptionnelle de Jimmy Vico sur 100 mètres. Le Français termine deuxième en 9,86, soit un nouveau record de France et le record d'Europe égalé.
C'est parti avec pour l'instant un bon départ d'Asafa Powell. Jimmy Vico qui était un peu plus en retrait pour l'instant. Powell qui fait l'effort, Powell qui produit son effort et qui va s'imposer. Powell qui l'emporte le chrono en 9,81.
Il me semblait quand même qu'on avait Jimmy Vico pas loin derrière. 9,86 pour Jimmy Vico.
Est-ce qu'il égale pas le record d'Europe?
Mais si, mais tout à fait. Mais oui, tout à fait.
Record d'Europe.
Record d'Europe égalé dans des conditions régulières.
Énorme.
Record d'Europe, je suis enfin moins de 9,90. En plus, ça arrive pas, donc ça fait vraiment plaisir de courir ici avec devant son public. En plus, je courais avec Powell, je suis à côté de lui, donc ça fait bizarre de le voir à côté de lui. Je me suis dit, mais je sens que je vais aller vite quand même, mais je pense pas que j'allais faire 9,86. Je suis assez content, je me sentais fort, je me suis dit, la chance, c'est une bonne course.
Très belle compétition et un grand 100 mètres avec Jimmy Vico qui vraiment s'était complètement affirmé. Pas tellement une surprise parce qu'on sait très bien que ce garçon a un très très gros potentiel. 9,86 comme ça, c'est absolument très très bien.
Et là, quoi, petit Vico.
Et là, le petit Vico, il sera également avec vous, avec toi, Martial, à 18h40. Et puis, au championnat du monde du 22 au 30 août. Avant cela, il y a le meeting de Lausanne jeudi prochain et le championnat de France du 10 au 12 juillet à suivre sur RMC. On va parler rugby désormais, hein, début de la dernière ligne droite vers la Coupe du Monde pour les rugbymen du 15 de France. Ça va commencer effectivement dans deux mois et demi. Avant leur entrée en lice dans la compétition face à l'Italie, les Bleus se rassemblent à partir de ce soir à Marcoussis pour entamer leur préparation, hein, Thomas de Saint-Léger.
C'est ça, Guillaume. Ça sent la fin des vacances, hein, pour les 36 joueurs retenus par Philippe Saint-André. 36 joueurs plus Jules Plisson, hein, le blessé de longue date. Au menu, premier bloc de préparation de 19 jours. D'abord en centre national, puis en altitude à Tignes à partir du 15 juillet. Comme Plisson, le troisième ligne, Loan Goujon, touché au genou, suivra un programme personnalisé. Pour les autres, ce sera musclé avec 70% de travail physique. Le reste du temps, rugby bien sûr, mais pas que. Philippe Saint-André.
Ce qui va être important aussi, c'est la cohésion du groupe. Donc on va faire aussi des activités extra-rugby. Et puis surtout, ça va être important de se retrouver avant de préparer un événement exceptionnel.
Et après ce premier stage, court répit, 5 jours de coupure avant d'enchaîner sur une nouvelle phase de préparation qui doit doucement emmener les joueurs vers un premier test match. Ce sera le 15 août face à l'Angleterre à Twickenham.
Merci Thomas, et on rappelle que la prochaine Coupe du Monde, eh bien, elle se déroulera du 18 septembre au 31 octobre en Angleterre. La Coupe du Monde de rugby 2023, elle pourrait bien se dérouler en France. On sait que la France est candidate, tout comme l'Irlande, l'Italie et l'Afrique du Sud. Alors avec la Ryder Cup, la Coupe du Monde féminine de football 2019 et la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024, la France, on le remarque, se veut active sur l'organisation des grands événements sportifs. Notre pays n'est-il pas trop gourmand ? Damien Gossioso a posé la question un petit peu provocante à Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport.
Au contraire, je crois que c'est de bon augure. Je crois que si la France a l'honneur d'organiser autant de manifestations, c'est parce qu'on est attractif, parce qu'on a un savoir-faire. Et que c'est parce qu'on est attractif et qu'on a savoir-faire que les fédérations internationales nous choisissent pour organiser ce genre de manifestation.
Thierry Braillard au micro de Damien Gossioso. Enfin, sachez que le triathlon de Paris que t'as pas fait, Martial,
non.
T'aurais pu faire un petit effort.
J'avais piscine.
T'avais piscine aujourd'hui. Il a été remporté par Bruno Freudenreich.
Très bien. Eh ben, il a dû pas avoir trop chaud, c'est déjà bien. Merci beaucoup, Guillaume. On te retrouve à 19h05 pour refaire un point, un dernier point sur l'actualité sportive dans quelques instants avec nous. Cyril Guimard pour revenir sur cette deuxième étape très animée du Tour de France. Les experts F1 et le héros du week-end, Jimmy Vico, avec nous sur RMC.
RMC, Intégral Tour, Martial Fernandez.
Et 18h19 sur RMC pendant 3 semaines. Votre rendez-vous sur RMC à cette heure-là, c'est avec Cyril Guimard qui est avec nous en direct de la route du Tour du côté de Zélande aux Pays-Bas. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Cyril, tu nous avais prévenu, cette deuxième étape risquait d'être animée. Ça a été le cas, 166 km avec la victoire au sprint d'André Greipel. Alors au sprint d'un groupe de survivants, on va dire, des 24 qui ont réussi à vaincre le vent et la pluie des 24, donc avec Greipel qui s'impose devant Peter Sagan et Fabian Cancellara. Fabian Cancellara qui, grâce à ses 4 secondes de bonification, prend le maillot jaune parce que le maillot jaune d'hier lui a fini très loin, Cyril, comme d'ailleurs certains favoris ou outsiders de ce Tour de France. Dans ce groupe de 24 devant, les gagnants du jour, c'est Froome et Contador. Nibali, Quintana et Thibaut Pinot, eux, ont été piégés et ils perdent 1 minute 27 secondes. On va revenir en détail avec toi, Cyril. D'abord, parlons de la victoire d'étape d'André Greipel, habitué des sprints de masse. Et là, bah, il a piégé les meilleurs qui étaient encore avec lui, dont Cavendish, qui, sur le dernier sprint, s'est un peu planté.
Oui, on avait sur ce final très peu de sprinters par rapport à l'ensemble des coureurs engagés. Et il n'était plus que trois, Greipel et Cavendish. Bon, c'est pratiquement deux des quatre meilleurs mondiaux. Et puis Peter Sagan qui va également très très vite, un petit peu en retrait par rapport à ces deux grands sprinters, qui est souvent plus à l'aise sur des sprints où il y a moins de monde. Et c'était le cas aujourd'hui, puisque il y a eu 24 escapés, on va dire, parce que ça a été un vrai carnage. Boigny a sauté, Demar a sauté, Coquart a sauté, pour parler des sprinters français. Degen Kolb a également sauté. Donc ça a été un sprint assez particulier où on voyait difficilement Cavendish faire battre, parce qu'il a des qualités de sauteur par rapport à Greipel, qui est plus un sprinter long. Et puis son train l'a bien emmené, l'a laissé peut-être un tout petit peu loin. Il a été obligé de lancer peut-être 20 mètres, 30 mètres trop tôt Cavendish, avec bien sûr dans son sillage l'immense et le musculeux Greipel. Et Greipel, dans les 50 derniers mètres, oui, Eh bien l'a littéralement enrhumé. Peter Sagan a essayé de lutter, il vient très proche Sagan, parce que bien dans l'aspiration il est battu quand même que de quelques centimètres. Et puis comme Cavendish s'est relevé, c'est Cancellara qui vient faire troisième, qui prend les 4 secondes, et finalement c'est pas l'équipier qui était le mieux placé, l'équipier de Cavendish, Tony Martin, qui se retrouve avec le maillot. Mais ça, ce sont des faits de course. Cancellara en est très heureux, mais très belle victoire de Greipel. Et j'ai envie de dire, mais le jeu ne réclame que faute en règle générale. La faute, Cavendish l'a fait. Greipel, eh bien, a su saisir sa chance, l'opportunité de remporter une victoire sur le Tour de France. Et quand vous avez remporté une victoire sur le Tour de France, vous savez que vous avez assuré votre tour.
Ouais, et ben c'est déjà fait pour cette équipe Lotto. On a entendu d'ailleurs Tony Gallop dans le journal des sports, très content pour son pote. Il y avait quand même quelques Français, donc Tony Gallop dans ce groupe. Il y avait Warren Barguil aussi, qui est passé en entre les bordures. Et il y avait donc Chris Froome et Alberto Contador, Cyril, qui reprennent 1 minute 27 secondes aux autres favoris. C'est le bon coup pour eux aujourd'hui.
Alors, on s'attendait avec le vent, et encore, il s'est calmé sur le final, puisque, alors pour tout vous dire, maintenant on a un très beau soleil, un ciel bleu, légèrement moutonné, il reste encore un petit peu de vent.
C'est vrai qu'on a eu la pluie aussi hein, cet après-midi.
Mais bon, c'est très bien pour nous, hein, parce que maintenant on peut, on peut profiter du cadre. Mais on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait des dégâts. Alors, dans ce genre d'épreuve, dans ce genre et dans ce style.
Ils étaient prévenus pourtant, Cyril. Ils étaient
Mais bien sûr, ils sont tous prévenus. Ils savent comment ça va se passer. Mais attendez, quand vous avez du vent comme ça, plus la pluie, parce qu'ils ont pris la pluie à peu près une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Attendez, dans le peloton, il n'y a plus que des charognards. Hein, attendez, personne fait de la place. Hein, et quand on peut prendre la place d'un autre, pour être dans les abris, parce que comme je dis toujours, le vélo c'est de la voile, il faut aller chercher l'aspiration, il faut pas se faire bordurer, il y a des portiers qui essayent de casser le peloton, il y a ceux qui roulent devant et puis il y a ceux qui font les cassures derrière. Et ben il faut se battre à coups d'épaule, il faut se battre avec de la hargne, il faut du caractère, il faut de la personnalité. Et bien ceux qui se sont fait piéger aujourd'hui n'ont pas eu ces qualités, même s'ils l'ont dans d'autres circonstances. Là c'était absent. Et puis bon, il y a peut-être aussi une autre chose qu'il faut faire quand on a ce genre de situation. Il faut être patron. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Froome et pourquoi Contador s'en sortent? Parce que c'est eux qui ont mis en route les bordures avec les Quick-Step et avec les lotos.
Ils ont déclenché, quoi.
Ils ont déclenché, mais en déclenchant, ils étaient aux premières, dans les premières positions. Ils tournaient, ils étaient dans l'aspiration entre eux. Et derrière, bah, vous vous battez dans le vent et vous finissez par sauter. Et ça a été le cas de Nibali, un petit peu esselé au niveau de ses équipiers. Ça a été le cas au niveau de Thibaut Pinot. Et ça a été le cas aussi pour les coureurs pour les équipiers de Quintana. AG2R n'était pas là.
Mais Bardet et Perrault aussi piégés, hein.
Ouais. Ah oui, non, mais bon, il y en a que deux qui sont pas piégés. Tous les autres, eh ben, ils ont pris 1 minute 20 dans les carreaux. Et puis, à noter quand même, Warren Barguil, qui lui, a eu la capacité à accompagner Tom Dumoulin, son équipier. Ensuite, il a fait de la patinette. Il a fait une superbe étape. Et ça le replace d'ailleurs au classement général, parce qu'il avait quand même pris un grand tir dans l'étape contre la montre d'hier.
Oui, il est à 1:25 de Cancellara ce soir, voilà. 22e.
Et alors, si on prend pour le classement général, vous savez, moi quand je fais mes comptes et les écarts, je fais comme quand j'étais directeur sportif. Pour le classement général, eh bien, il faut savoir que aujourd'hui, par rapport à Froome, Galopin est dans le même temps que Contador, mais à 12 secondes. Et puis vous avez à 37 secondes Barguil. Pourquoi je dis Froome? Parce que c'est l'homme premier, oui, des favoris. Mmh. Et donc, vous vous retrouvez avec Pinot à 1:19. Vous avez...
Il y a déjà des écarts. Hein,
et
de
Nibali,
joueurs,
par rapport toujours à Froome, c'est 1:21. Et si vous prenez Perrault, il est à 1:37. Quintana, il est à 1:39. Et Bardet à 2:12. Ça veut dire que même pour les places sur le podium pour les Français, ça se gâte.
Mmh. Et en plus, ça va peut-être bouger encore demain. Parce que demain... Le mur de Huy,
oui.
Hein,
l'arrivée
de la flèche wallonne.
Ah oui, ah oui alors.
1300 mètres, une pente de 9,6%. Autant dire qu'il va falloir être devant à l'entrée. Hein.
Oui, mais
et à l'arrivée aussi,
ça sera
d'ailleurs
assez facile d'être devant au pied, parce qu'avant, vous allez avoir la côte de Boisseau, vous allez avoir la côte de Saint-Éreff et la côte de Chérave. C'est trois côtes qui précèdent le mur de Huy, qui sont passées d'ailleurs dans la flèche wallonne. Et la dernière, c'est quand même une côte qui monte à 7,5% pendant 1,3 km. Ouais. Vous replongez et vous allez rattaquer le mur de Huy. Ça frottera pas trop, d'autant que les sprinters ne seront pas là. Donc il y aura une explication entre... les meilleurs du classement général, oui, d'une part, mais des favoris, ou peut-être même, pourquoi pas, des ex-favoris du Tour de France.
Merci beaucoup Cyril, on te retrouve à 19h déjà tout à l'heure avec toute la Dream Team du côté de Zélande, l'intégral Tour. Hein.
Oh bah, je vais essayer de faire un effort, je vais essayer de prendre la bonne bordure.
Et voilà, soit dans le groupe des 24 rescapés, à tout à l'heure Cyril, merci beaucoup, 18h28 sur RMC. Dans un instant, les experts F1 et puis juste après, Jimmy Vico, le héros du week-end, nouveau recordman d'Europe du 100 mètres en athlétisme. A tout de suite.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
Et 18h29 sur RMC, on retournera sur les routes du Tour de France à partir de 19h avec toute notre équipe pour revenir sur cette étape très animée. Nouveau maillot jaune, Fabian Cancellara, André Greipel qui gagne l'étape et puis des favoris qui perdent du temps, Nibali, Pinot et Quintana, les piégés du jour. On sera aussi avec Jimmy Vico dans une dizaine de minutes à peu près. Avec nous en direct, évidemment, sur RMC, le héros hier du Stade de France. Mais d'abord, retour sur le Grand Prix de Silverstone de Formule 1.
RMC, les experts F1.
Avec un retour sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Et pour une fois, il y a eu du changement en cours de course. Grand Prix de Silverstone remporté par le Britannique Lewis Hamilton. Jean-Luc Roy avec nous. Salut Jean-Luc.
Salut Martial, bonjour à tous.
Et Louis Amard en Grande-Bretagne. Bonsoir Louis.
Bonsoir à tous.
Alors, si on ne regarde que le classement, messieurs, on va se dire, comme d'habitude, podium classique, Hamilton devant Rosberg et Sébastien Vettel. Même podium qu'en Australie et en Chine. Ouais, j'ai bossé, Jean-Luc.
C'est bien, c'est super.
Alors, avant de revenir sur les circonstances de course, on va juste écouter Lewis Hamilton. Lui, les circonstances de course, à la limite, peu importe. C'est sa 5e victoire cette saison. C'est la 38e de sa carrière. Et il est ravi d'avoir gagné à domicile.
140 000 personnes, c'est fou. Je n'arrive pas à croire tout ce soutien que j'ai reçu tout le week-end. Et je ne peux pas être plus heureux que maintenant. Devant mon public, j'ai réussi à gagner dans des conditions vraiment piégeuses. Il s'est passé tellement de choses dans cette course. Elle a été très dure, ce qui rend la victoire encore plus belle. Maintenant, j'ai un championnat à gagner. Mais là, je suis juste fier de ce que j'ai fait pour mon pays.
Voilà, Lewis Hamilton qui a gagné. Jean-Luc, il le dit, il s'est passé beaucoup de choses dans ce Grand Prix. Dès le départ, avec des Williams partis en 3e et 4e position, les plus rapides.
Et écoute, on avait beaucoup supputé sur le fait que Nico Rosberg serait capable ou pas de devancer Lewis Hamilton. Eh bien, la surprise générale, ce sont les pilotes Williams qui ont littéralement jailli depuis la deuxième ligne. Alors, un départ canon de Felipe Massa, suivi de Valtteri Bottas, avec une petite friction avec Lewis Hamilton. Mais bon, là, on s'est dit, ça y est, il y a peut-être un coup à jouer, un coup formidable à jouer sur une piste sèche. Et puis, les menaces de pluie ont commencé à faire leur apparition.
Alors, comment on peut perdre un Grand Prix quand on part si bien?
Eh bien, on peut perdre un Grand Prix quand on part si bien, pour deux raisons. D'abord, après, le moment où on s'arrête pour changer de pneumatique est absolument très important. Alors, je peux dire, pour le premier arrêt, c'est Lewis Hamilton qui a anticipé. Il s'est arrêté au 18e tour. Ensuite, il y a eu au 20e tour Nico Rosberg, Felipe Massa. Et enfin, Valtteri Bottas au 21e. Et là, déjà, on a inversé un petit peu l'ordre des facteurs. Et puis ensuite, eh bien, la pluie est apparue sur la fin. Et là, c'était encore plus décisif puisque Lewis Hamilton s'est arrêté au 42e tour pour monter les pneumatiques intermédiaires. Et ça, c'était un coup de génie.
Et j'ajouterais, Jean-Luc, que la raison pour laquelle les Williams sont perdus, c'est aussi peut-être parce qu'il y a eu une tergiversation au moment où Valtteri Bottas avait une vitesse fulgurante, où il pouvait passer devant Felipe Massa, où il y a eu une hésitation par rapport aux consignes d'équipe, est-ce qu'il double son coéquipier, est-ce qu'il le double pas. Bottas a sans doute perdu un petit peu de temps, Massa a perdu beaucoup d'énergie à défendre sa première place au moment où Bottas a essayé de le doubler, et peut-être que là aussi c'est joué une partie importante de cette course.
Alors, des regrets pour les Williams, il y en a un aussi qui a des regrets ce soir, c'est Nico Rosberg, parce qu'il y a cru, même s'il a jamais été en tête du Grand Prix, il a cru à la victoire, notamment tu parlais de la pluie.
Absolument.
Et du changement
au moment
de
où Lewis s'est arrêté, il a pensé que ça aurait
exactement
pu être une erreur.
Et bien on va l'écouter, Nico Rosberg.
C'est super dommage, j'ai vraiment pensé que là je pouvais le doubler et gagner la course, mais après lui il a pris la bonne décision d'aller au stand et il a plu un peu plus après, donc il a eu raison. Même si au moment qu'il rentre au stand, j'ai pensé bon, celle-là elle est pour moi, ça y est, j'ai gagné, parce que j'ai pensé que c'était pas la bonne décision. Je suis content déjà que c'était une belle course pour tout le monde et dans le départ très mauvais, complètement loupé, les Williams devant, c'était impossible de les doubler, ça c'était dommage.
Voilà, Nico Rosberg.
Et juste pour mieux expliquer ses propos, c'est que avant l'arrêt justement inopiné, en tout cas anticipé semblait-il d'Hamilton, eh bien Rosberg revenait sur lui à coup de 1,5 seconde, 2 secondes au tour. Donc il est en train de fondre sur Hamilton et là Rosberg s'est dit ça y est, c'est pour moi.
Alors je vais juste rappeler le classement. Hamilton, Rosberg, Vettel, Massa, Bottas, Kvyat à la 6e place. place. Il n'y a pas de Romain Grosjean dans le classement. Aujourd'hui, il n'y a même pas eu de Romain Grosjean au deuxième virage, Jean-Luc.
Et non, éliminé malheureusement dans le premier tour. Il y a eu des frictions au milieu du paquet. On a même compris après qu'il avait tapé lui-même Pastor Maldonado. Donc les deux Lotus éliminés. Et puis ça a fait le ménage aussi du côté de Button, puisque également la McLaren Honda n'a pas été plus loin que le premier tour. Et il a fallu s'arrêter pour changer aussi le museau de la McLaren Honda d'Alonso. Donc ça a fait très mal.
Alors Romain Grosjean, pour une fois, c'est pas sa faute. On l'écoute.
Un bon départ depuis la ligne, je double la Red Bull de Ricardo, donc une position d'entrée. Et puis ensuite sur le virage 3, j'avais décidé de prendre l'intérieur de la Sauber. Ricardo est venu sur ma droite, a freiné extrêmement tard et je crois qu'il n'a pas réussi à s'arrêter avant de prendre le virage. Il a touché ma voiture qui du coup est venue toucher la Sauber. Aileron avant et pneu avant cassé. Et donc elle est partie complètement sur la gauche et malheureusement il y avait Pastor qui était là, donc on a perdu les deux voitures en un virage. On en a parlé, je l'ai vu, on est tombé ensemble dans le carré des interviews et il s'est excusé, il admet avoir freiné beaucoup trop tard.
Voilà, Romain Grosjean, Louis, on pensait après le début de saison que pour Romain Grosjean ce serait une meilleure saison que l'an dernier et finalement c'est bien parti pour être encore une saison pourrie.
C'est ça, franchement c'est compliqué, on pensait qu'il arriverait à tirer davantage de bénéfices de son nouveau moteur Mercedes, d'ailleurs les premiers Grands Prix avaient pu le laisser entrevoir cela, et finalement là effectivement depuis plusieurs semaines c'est compliqué parce que il y a eu d'abord le coup de pas de chance à Monaco alors qu'il était pas mal et que Verstappen est venu le taper par derrière, ce qui a un peu mis un coup d'arrêt à la saison de Romain Grosjean. Il y a eu une erreur au Canada qui fait partie de ces erreurs qu'il faisait encore il y a quelques années et qu'il ne faisait plus depuis plusieurs mois et notamment depuis le début de saison. Et on a un peu l'impression que ces dernières semaines ont brisé la dynamique, même s'il faut insister aussi sur le fait que ce week-end, il a vraiment pas eu de chance. Il a pas eu de chance hier lors de la troisième séance d'essai libre, il a eu un souci mécanique en qualif, et là franchement, le fait que Ricardo le percute dès le premier tour, c'est vraiment pas de chance non plus.
On a couru 9 Grands Prix sur 19, Jean-Luc, au classement général des pilotes, Hamilton creuse l'écart.
Et oui, bien sûr, 194 points contre 177 à Rosberg. Là, évidemment, les 7 points d'écart, eh bien, il les prend pour lui. Et puis, on arrive à un moment décisif, c'est malgré tout le break après le Grand Prix de Hongrie. Alors, Vettel est troisième, mais solitaire, hein, très très loin, avec 125 points. C'est clair que le bras de fer, il sera entre Hamilton et Rosberg pour le titre, on le sait bien. Mais là, Hamilton, en plus, psychologiquement, a marqué de gros gros points sur son terrain et devant son public.
Et prochain Grand Prix, donc la Hongrie dans 3 semaines. Hein
oui, ce sera dans 2 semaines.
3 semaines.
3 semaines, c'est vous qui avez raison.
26
semaines.
Juillet. Merci Jean-Luc. Merci
avec
Louis.
Plaisir.
Bonne soirée à tous.
Salut.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
Et 18h39 sur RMC, chose promise, chose due. On est avec le héros du week-end en direct sur RMC, Jimmy Vico.
RMC France Olympique.
Bonsoir Jimmy.
Bonsoir.
Jimmy Vico, le héros, je disais monsieur le recordman d'Europe, c'est comme ça qu'on va vous appeler maintenant, après ces 9 secondes 86 centièmes hier sur 100 mètres au Stade de France, deuxième de la course. Alors ça, bon, tu as été battu, ça arrive, hein, par Asafa Powell. Mais 9,86, Jimmy, tu avais l'air le premier étonné de ce chrono finalement hier.
En fait, quand je vois que je suis à côté de lui, mais... Du coup, je me dis, en fait, voilà, c'est sûr qu'il y a une performance, mais je pensais pas que j'allais faire vraiment 9,86, quoi. Donc là, en plus, bah, c'est encore mieux, parce que là, c'est le retard d'Europe, quoi, égalé, quoi. Donc, bah, c'est vraiment génial, quoi.
Ça veut dire que pendant que tu cours, tu es pas en train de te dire, là, je cours bien, là, je suis en train de battre mon record, là, ça va très vite par rapport à d'habitude?
Non, je suis parti. Au début, je me suis dit, j'ai pris mon départ, parce que je suis un peu derrière les autres, et après, je reviens et j'y reviens. Et après un moment, je suis à côté de Powell et je me dis, mais tiens, après, je suis à côté de lui, quoi. Je suis vraiment très près, donc je me dis, oh, là, je me dis que là, il y aura une grosse performance. La prochaine fois, j'ai fait 9,86, quoi.
Alors, 9,86, on va resituer un petit peu ce que ça représente pour tout le monde. Déjà, tu bats le record de France de Christophe Lemaitre qui était de 9,92. Tu égales donc le record d'Europe du Portugais Francis Obiquelu de 9,86. Tu égales aussi quelqu'un qui s'appelle Carl Lewis, c'est quand même pas mal, Jimmy.
Hein, c'est pas mal.
Et tu fais mieux que des Christie ou des Crawford. Quand on voit les noms derrière toi, franchement, ça donne le vertige. Hein.
Bah, écoutez, je sais pas ce que ça fait, mais bon. Moi, en tout cas, je m'entraîne tous les jours pour ça. Donc, après, c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'être comparé à ces gens-là et qui font une grosse performance. Donc.
Alors,
il de faire mieux, quoi.
Bah justement, faire mieux ce matin dans les grandes gueules du sport sur RMC, on avait Guillaume Tanon, ton entraîneur, qui nous disait que c'était pas la course parfaite. Alors, quand on fait pas une course parfaite à 9,86, on se dit qu'on peut viser quoi? Toi, tu es d'accord pour dire que c'était pas une course parfaite pour toi hier?
Techniquement, non. Mais après, c'est sûr que c'est une course parfaite parce que mon record, je suis 9,86. Après, c'est sûr, il y a toujours des trucs à travailler. C'est pas une course parfaite, mais pour moi, c'est la course parfaite d'hier, en tout cas. Mais après, sincèrement, oui, techniquement, elle est pas propre, la course.
Qu'est-ce qui allait pas?
Bah, le départ, la fin de course, les bras, ils doivent être plus vers l'avant. Et là, je suis vraiment un peu crispé parce que je me dis, je suis à côté de Poel et je me dis, je pense que ça va aller vite, donc je suis un peu précipité, je pense. Après, sincèrement, là, la course comme ça, c'est, j'ai vu comme ça, mais après, je la verrai demain avec Guy et on en parlera à froid, quoi.
Tu l'as déjà revu quand même aujourd'hui ou pas?
Oui, plusieurs fois.
Bon. Et alors, ça te fait plaisir de te voir comme ça? Déjà, tu as analysé, toi.
C'est sûr, c'est toujours plaisir de voir 9,86, quoi. Parce que je suis souvent, je m'entraîne tous les jours pour ça et là, enfin, bah, ton record, bah, sur le record de France et le record d'Europe. Quand je regarde ça, je me dis, putain, en fait, t'as bien bossé quand même.
Et il faut continuer. Tu penses que les autres, quand ils voient ça, les autres coureurs, je parle évidemment, parce qu'on est en année de championnat du monde, ce sera fin août à Pékin, ils se disent, je crois que tu l'as dit toi-même, le Vico, il est là maintenant. Hein.
Bah, j'espère vraiment qu'ils vont dire ça. Après, ça veut rien dire, j'ai fait une impression à 6 maintenant, mais bon, il faut être prêt vraiment dans un mois et demi, quoi. Il faut vraiment être prêt à Pékin. Après, là, je vous dirais, si je le refais là-bas, bah parfait. Si je le refais avant... C'est encore mieux, mais pour le moment, on ne se précipite pas. Il y a les France à viser. Et après, ensuite, il y a encore deux meetings. Et après, je préparerai vraiment Pékin. Enfin, dans les derniers mètres de Pékin, on va dire.
Et tu vas y aller avec quelles ambitions quand même? Tu te prends à rêver d'un podium?
Non, pas du tout.
Tu as déjà été finaliste en 2011, des championnats du monde. Donc maintenant, il faut passer un cap.
Ouais, maintenant, il faut passer un cap. Donc non, pour le moment... là, je fais étape par étape. Là, je vise le championnat de France. Je regarde mon championnat de France. Et après, il y aura Monaco. Donc, étape par étape. Là, il n'y a pas de voir déjà qu'il médaillé ou je ne sais pas quoi. On n'y est pas encore.
Alors, juste, Jimmy, je te propose d'écouter Guy Druth, l'ancien champion olympique du 110 mètres et ancien ministre des Sports. Eh ben, il t'a vu hier et il voulait dire un petit mot sur ta performance.
Très belle compétition et un grand 100 mètres avec Jimmy Vico qui vraiment s'était complètement affirmé. Pas tellement une surprise parce qu'on sait très bien que ce garçon a un très très gros potentiel. 9,86 comme ça, c'est absolument très très bien.
Voilà, Guy Druth et Jimmy, ils parlent de s'être affirmé pour toi. Est-ce que t'as l'impression que sur la piste, tu es plus tueur qu'avant ou c'est ta façon d'être comme ça un petit peu en retrait, j'allais dire presque?
Non, j'ai toujours été comme ça. Après, je suis pas un mec qui va, je suis pas montré. Comment je pourrais dire ça? Non, c'est, je veux dire que j'ai toujours été comme ça.
Non, parce que souvent les coureurs de 100 mètres, c'est des tueurs, ils font le show avant le spectacle.
J'ai compris, c'est agressif. Non, j'ai toujours été comme ça. Non, moi, je suis bien comme je suis, donc je ne vois pas pourquoi ça le changerait. En plus, ça me réussit très bien, donc.
Alors, les championnats du monde, c'est à partir du 22 au 30 août. Ça va être quoi ton programme d'ici là? Il y a les France la semaine prochaine, c'est ça déjà?
Bah, j'aimerais me qualifier sur 200 mètres au championnat du monde.
Faire les minima, donc la semaine prochaine.
Faire les minima. Et ensuite, après, je vais essayer de battre mes records. Je vais essayer en tout cas. Et après, le but, c'est vraiment être prêt à Pékin, quoi. Pour le moment, sans blessure et vraiment être opérationnel, quoi.
Alors, les blessures, il y en a eu beaucoup aussi dans ta carrière, enfin en tout cas quelques-unes qui t'ont embêté très longtemps. C'est derrière maintenant tout ça.
Oui, ça a été. Oui, maintenant, je pense, c'est fini, il n'y a plus de douleur, donc maintenant, on n'y pense plus. Pour moi, si j'ai appelé, j'ai oublié. Le corps est solide pour le moment, donc on continue ainsi.
Bon, en tout cas, hier, c'était une super soirée. Donc, ce record d'Europe devant ton public, Stade de France. En plus, tu as récupéré une médaille olympique avec le 4x100, hein, suite à des déclassements. Ça aussi, c'était sympa hier.
Oui, c'est sympa. En plus, devant le Stade de France, donc ça faisait un petit truc en plus, quoi. Comme si on était un peu à Londres. Alors, bon, même si après, c'est trop tard de l'avoir 3 ans après, mais bon.
Ouais, juste une petite dernière question. Tu disais que tu veux doubler 100 et 200 à Pékin. T'as pas peur de courir trop de lièvres à la fois? Non, c'est une volonté, ça?
Non. C'est que cette année, je me suis dit que j'allais faire les minima sur 200 mètres. Donc pour le moment.
C'est combien les minima sur 200 mètres?
20-38
est un record à 20-30, hein, c'est ça?
20-30. Ouais. Et là, j'ai fait 20-42. Donc maintenant, j'espère les faire aux France, quoi. Ça serait le top, quoi. Donc pour le moment. Il y a aussi le petit rabis sur le 100 mètres, mais pour le moment, là, je fais plus de l'optique de faire les minima sur 200 mètres.
Eh ben écoute, déjà on te suivra au France la semaine prochaine sur RMC. Merci beaucoup Jimmy Vico d'être venu. Allez, à très vite et bon débriefing demain avec Guillaume Tanon devant la vidéo.
Merci,
alors.
C'est gentil.
Ça marche Jimmy, 18h47 dans l'intégrale Tour sur RMC. On va partir dans quelques instants du côté de la Tour Eiffel parce que il y avait une belle épreuve aujourd'hui avec un spectacle grandiose de l'équitation devant l'école militaire et on est avec le français Kevin Staud qui a participé à cette épreuve. Bonsoir Kevin.
Bonsoir.
Alors Kevin, c'était le Longines Paris Eiffel Jumping. Évidemment, ça fait partie de la Coupe du Monde d'équitation. Épreuve que tu avais remportée l'année dernière. C'était un petit peu plus compliqué cette année pour toi. C'est pas tous les jours faciles. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé?
Exactement. Bah, ça fait partie un peu des règles de notre sport. L'année dernière, pour la première édition sur le Champ de Mars, j'avais gagné avec ma jument fétiche Sylvana. J'étais revenu avec elle aussi cette année. Et aujourd'hui, j'ai fait deux fautes qui me relèguent à la 9e place sur un parcours qui était assez difficile. Faut dire qu'on a eu des conditions cette année assez dures pour les chevaux, une grosse chaleur. Et c'est vrai que les canicules, les premières canicules, les chevaux ont de temps en temps du mal un peu à les supporter. Mais d'un autre côté, c'était la même chose pour tout le monde. Donc j'ai pas non plus énormément d'excuses de ce côté-là.
Tu parlais des canicules pour les chevaux. J'ai lu que quand il fait très chaud, les chevaux boivent 100 litres d'eau par jour. Tu me confirmes ça?
Oui, les chevaux boivent énormément et puis aussi quand il y a un problème de déshydratation un peu plus important, on peut les perfuser pour essayer justement de les hydrater au maximum autrement que par voie orale quand il y en a vraiment besoin. On a des vétérinaires sur place, on a le maximum d'outils à notre disposition pour essayer de les mettre dans un certain confort avec des ventilateurs dans les box, essayer vraiment de diminuer la température pour que les chevaux puissent quand même trouver du calme et du repos entre les épreuves.
Cet après-midi et hier, c'était un site grandiose, un site urbain comme ça. Ça doit être fantastique pour un cavalier comme toi, Kevin, de pouvoir participer à une telle épreuve devant le public et devant de tels monuments.
Oui, c'est vraiment formidable. Il y a tout ce côté artistique du décor qui est magique, historique aussi, parce que on est devant l'école de ligne militaire en face de la Tour Eiffel. Et surtout une exposition qui est extraordinaire pour notre sport. On est un sport en devenir, je pense, dans la médiatisation et dans la manière de le démocratiser. Et là, de pouvoir mettre une compétition de très haut niveau de saut d'obstacles à cet endroit-là, c'est vrai, il y a eu énormément de passages et énormément de spectateurs complètement novices qui ne connaissaient pas forcément le sport et qui se sont arrêtés pour le regarder. Donc ça fait un gros coup de pub et énormément de bien à l'équitation française.
Alors en parlant de site, on pense évidemment aux Jeux Olympiques de Paris 2024 où la capitale est candidate. Kevin, l'équitation ce serait pas là, hein. A priori ce serait du côté de Longchamp, c'est ça, s'il y avait des Jeux 2024 à Paris, hein.
Oui, il y a deux options, soit du côté de Longchamp, soit devant les Invalides.
Mais
exactement. Mais de toute façon, les deux sites au niveau de l'espace seraient complètement appropriés à l'organisation du saut d'obstacles. Mais c'est vrai qu'on pousse au maximum la candidature de Paris. Ce serait formidable d'avoir l'organisation de ces Jeux Olympiques. Et surtout, c'est vrai que de pouvoir, en tant que compétiteur, parce que pour un sportif, pour un cavalier de saut d'obstacle, 2024, bah, c'est pas si loin.
Et justement, vous avez des carrières longues, hein, donc c'est possible pour toi. 34 ans, t'as 34 ans, donc tu peux y aller.
Exactement. Donc c'est envisageable de pouvoir, si j'ai un cheval en forme à cette période-là, de pouvoir participer aux Jeux Olympiques 2024. Donc forcément, si j'étais à Paris, en France, ça serait extraordinaire.
Kevin Staud avec nous en direct sur RMC. Kevin, pour tous les cavaliers aussi, l'objectif à plus court terme, c'est Rio dans un an. Tu sais déjà, enfin, comment ça se passe? Je sais que tu as plusieurs chevaux à ta disposition. Tu sais déjà lequel tu comptes emmener là-bas?
Il y a deux ou trois chevaux qui sont en lice dans mes écuries pour Rio. J'ai la chance d'avoir des propriétaires extraordinaires. Je monte pour des propriétaires qui sont Emmanuel et Armand et qui sont propriétaires de la quasi-totalité des chevaux que je monte en compétition. Et grâce à eux, j'ai la chance d'avoir plusieurs montures qui sont capables ou qui seront capables dans un an de participer à ces Jeux Olympiques. C'est vrai que dans notre sport, une blessure ou une baisse de forme d'un de nos chevaux est vite arrivée. Donc c'est une chance aujourd'hui, un an avant l'événement, avoir la possibilité de préparer deux ou trois chevaux en vue de cette échéance.
Eh ben, on suivra ça, bien sûr, avec attention sur RMC, partenaire et radio officielle de l'équipe de France Olympique. Merci beaucoup, Kevin Stowe, d'être passé sur RMC. À très vite.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
À bientôt, Kevin. 18h52 sur RMC. On va passer maintenant à la natation. On est partout ce soir avec l'Open de France du côté de Vichy. On va retrouver Julien Richard. Salut Julien.
Salut Martial, salut à tous.
Alors Julien, il y a un programme sympa aujourd'hui.
Très sympa, hein, ouais.
Déjà un petit peu plus tard, dans quelques instants, on va voir la course Travius, mais juste sur 50 d'eau, ouais. Juste avant d'en parler. Il y a un 50 mètres nage libre prévu à 19h26, très alléchant.
Effectivement, mais je te propose d'en parler dans quelques petites secondes, un peu plus de 30 secondes, parce que justement la finale du 50 d'eau,
c'est maintenant.
C'est tout de suite,
ah bah
c'est
voilà.
Maintenant.
Ah, vous avez de l'avance sur le programme.
On a un peu d'avance. Parce que là, on a le recordman du monde qui a fait un petit peu de grabuge sur les panneaux publicitaires au bord du bassin. En se mettant à l'eau, il a tout emporté. Tant pis pour les pubs, on va donner le départ. Hein. La finale de ce 50 mètres d'eau avec deux Français. C'est les leaders mondiaux, tout simplement, de ce 50 mètres d'eau. C'est les boss. Camille Lacour, le champion du monde en titre, meilleur performeur mondial de l'année. Et Jérémy Stravius, deuxième performeur mondial de l'année. Ils ont l'habitude d'être côte à côte là. Il y a également Liam Tuncock, le britannique recordman du monde de la distance. Mais c'était une autre époque, c'était en 2009, à l'époque des combinaisons qu'il avait grandement avantagé. Camille Lacour a fait un très très bon départ et il est en tête là, il va s'imposer sans souci. Attention au retour de Jérémy Stravius qui prendra la deuxième place, peut-être Camille Lacour. On va surveiller le chrono également, qui va s'imposer en 25 secondes et 11 centièmes. Alors le chrono c'est pas terrible, mais c'est une victoire tout de même pour Camille Lacour. Deuxième place pour Jérémy Stravius, c'est un peu une habitude. 25 secondes et 21 centièmes et la troisième place pour le recordman du monde, l'Israélien Kopelev.
Bon ben voilà, ils ont gagné ces deux Français parce qu'hier ils avaient été battus hein, sur 100 mètres d'eau, Lacour et Stravius. Hein,
exactement, battus et donc ils se sont rattrapés cet après-midi donc dans cette finale du 50 mètres d'eau et ce sera là, de toute façon les grands favoris. On se travaille que les deux nageront cette distance au championnat du monde cet été à Kazan et Camille Lacour, grandissime favori pour conserver son titre malgré sa longue absence, sa blessure, sa tumeur bénigne à une hanche qu'il a eu du mal à d'abord diagnostiquer puis qu'il a dû soigner. Il s'est arrêté un peu plus d'une demi-année et il est quand même de retour sur un 50 mètres, ça va. On sait que pour lui, le prochain objectif pour Camille Lacour, ce sera de monter sur la distance supérieure, sur le 100 mètres, en tout cas de se rapprocher de son meilleur niveau pour les Jeux Olympiques, parce que le 50 mètres, malheureusement, c'est pas olympique.
Alors il y a un 50 mètres olympique quand même, c'est le 50 mètres nage libre. On a le champion olympique en plus en France, Florent Manaudou. Il va nager tout à l'heure, donc c'est de ça dont je voulais parler face à du beau monde. Hein.
Oui, on a même les deux derniers champions olympiques de la distance cet après-midi en finale, puisque Florent Manaudou est devenu champion olympique en 2012 à Londres et en 2008 c'était César Cielo qui avait devancé Amaury Levaux et les deux se retrouvent donc dans cette finale cet après-midi. Cielo qui est triple champion du monde en titre et qui est recordman du monde de la distance, donc voilà, Florent Manaudou meilleur performant mondial de l'année. C'est vraiment les deux boss de ce 50 mètres, les deux favoris pour Kazan cet été et pour Rio donc le pays de César Cielo, donc ça nous promet des duels superbes en perspective. Et donc le premier cet après-midi, Manaudou, puis sur les deux dernières épreuves de cette Open de France, les deux dernières éditions, il s'est toujours imposé face à César Cielo.
Et Manaudou veut toujours pas faire le 100 mètres. Hein.
Alors ça c'est vraiment un sujet un peu curieux. Effectivement,
c'est le plus rapide. Presque,
c'est le plus
en
rapide.
France,
hein, ouais. C'est-à-dire que hier il a nagé les séries du 100 mètres, 48 secondes 77 centièmes, mais il n'a pas nagé la finale. Pourquoi ? Parce que il voulait juste réaliser un temps qui lui permette de prétendre sérieusement au relais. Alors évidemment on sait qu'il a sa place dans le relais, mais il fallait quand même matérialiser tout ça
Pas pour voler personne en fait.
Pour voler personne, ouais. Effectivement, et il nous a dit que garderait ce 100 mètres, ça c'était il y a quelques mois, pour les Jeux Olympiques, pour ne pas se lasser, pour avoir une nouveauté pour l'année des Jeux Olympiques. Mais on a quand même quelques doutes quant à sa volonté de se mettre sur ce 100 mètres. Il nous le dit tout simplement, ce sera à l'envie. Si je prends du plaisir et que j'en ai envie, je le ferai, sinon je le ferai pas. Mais pour un 100 mètres, il faut bosser, et c'est pas forcément à l'entraînement ce que préfère Florent Manet.
Et c'est ce que nous disait Jimmy Vico, c'est pas le même 100 mètres, mais en athlé aussi, faut bosser, il va y retourner. Merci beaucoup Julien, à tout à l'heure. Open de France de Vichy de natation qu'on suit sur RMC, 18h56, on va retourner du côté de Zélande. Le Tour de France, Christophe Cessieux et toute la Dream Team, messieurs.
Ben oui, c'est le
retour, hein.
Ben oui, on est là.
Bon, alors maintenant, il y a du soleil.
Oui, exactement. Le soleil a fait son retour, voilà. Mais il y a toujours un peu de vent. Mais c'est vrai qu'on a assisté à une magnifique deuxième étape du Tour de France. On va vous en reparler, évidemment, jusqu'à 20h30 avec toute la Dream Team. Cyril Guimard, Luc Leban, Thierry Bourguignon. Ce sera après les infos 19h et après le journal des sports. On commencera, évidemment, par cette histoire de bordure piégée dans les bordures. Ça veut dire quoi? C'est une question de malchance ou une question de science? On en parle donc juste après 19h. Restez avec nous. On est bien ensemble sur la route du Tour.
RMC Intégral Tour.